La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Philippe K. Dick est né à Chicago en 1928, en même temps qu'une sœur jumelle. Quelques semaines plus tard, celle-ci décédait de malnutrition, tandis que lui-même frôlait la mort. Triste détail, sa mère lui fit sentir, semble-t-il, que c'était la meilleure des deux qui était partie. Cet écrivain paranoïaque, grand consommateur de médicaments, de drogues et d'amphétamines, s'est marié 5 fois et il est mort en 1982 à l'âge de 53 ans des suites d'une crise cardiaque. Vous comprenez donc pourquoi nous avons choisi d'intituler « La vie mouvementée » de Philippe K. Dick, le premier épisode de cette série diffusée hier et à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Et puis demain, nous chercherons notamment à actualiser Dick pour voir dans quelle mesure il avait déjà imaginé le monde du tout virtuel dans lequel nous vivons actuellement. Ce sera avec Ariel Kirou. Et enfin, jeudi, l'écrivain Emmanuel Carrère nous dira ce qui a pu l'inspirer dans l'œuvre de Dick. Il nous parlera aussi du roman Ubique. Tandis qu'en seconde partie de la même émission, Christophe Franco Rogelio nous parlera des liens de l'écrivain avec la musique en général et avec celle du compositeur estonien Arvo Pärt en particulier. Et aujourd'hui ?
In being in touch with the spirits themselves is a difficult. There's a transcendental mystery. Who are the spirits? What are they? What do they consist of?
La voix d'outre-tombe de Dick pour introduire cette émission. Alors aujourd'hui, pour évoquer les nouvelles de Philippe K. Dick et aussi quelques thèmes qui traversent son œuvre, nous sommes en votre compagnie, Laurent Kessy. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors vous venez d'éditer les nouvelles complètes de l'écrivain en 2 volumes aux éditions Gallimard dans la collection Quarto. C'est une parution qui est une reconnaissance pour cet écrivain, une reconnaissance importante, vous diriez cela ?
Oui, certainement, parce qu'on sort du cadre des collections spécialisées de science-fiction, même si c'était déjà le cas pour lui auparavant, mais là, voilà, il rentre chez Gallimard, c'est quand même un petit peu symbolique de la grande littérature, on va dire, ce dont il s'est toujours senti éloigné, puisqu'il n'a jamais réussi à publier tous les romans de littérature générale qui étaient la grande ambition de sa vie.
Alors, il a quand même réussi à publier, post-mortem bien sûr, dans la Library of America, qui est un petit peu l'équivalent américain de la Pléiade française. C'était en 2007, donc reconnaissance aussi aux États-Unis.
Tout à fait. Qui a été d'ailleurs beaucoup plus tardif qu'en France. Il a été reconnu sans doute aussi grâce au succès des adaptations cinématographiques de ses œuvres. Et donc, il a donc été publié, oui, dans l'équivalent de la Pléiade américaine, et puis il y avait eu aussi l'édition des nouvelles complètes chez un plus petit éditeur, mais qui marquait déjà une volonté d'inscrire son œuvre dans le temps et de lui donner un bel écrin.
Alors comment vous expliquez-vous que cet écrivain de science-fiction-là, plutôt que d'autres, qui a commencé dans les pulps, ces petits livres au mauvais papier, comment se fait-il qu'il soit arrivé, selon vous, à une telle reconnaissance aujourd'hui ?
Alors, il y a plusieurs choses. Je pense déjà que le genre de science-fiction qu'il pratique n'est sans doute pas le plus compliqué. C'est-à-dire qu'un lecteur qui n'est pas habitué au code, au poncif de la science-fiction, à cette espèce de tournure d'esprit qu'il faut avoir pour bien rentrer dans un texte de SF.
Quelle tournure d'esprit ?
Il y a peut-être un petit peu de culture scientifique, il y a une ouverture, il y a le fait d'accepter de se plonger dans un texte sans tout comprendre. Il faut accepter de se perdre en fait dans un texte. Et il y a certains textes de SF qui comme ça nous culbutent dans tous les sens pendant une dizaine de pages avant qu'on puisse reprendre pied. Chez Dick, il y a toujours un côté plus terre à terre, on va dire, et les choses commencent à culbuter un peu plus tard. Donc chez lui, c'est peut-être plus abordable. Il n'est pas le seul à être comme ça dans les auteurs de science-fiction. Et puis, je pense que ces idées, ces thématiques ont résonné depuis le début. Et puis, il parlait en réalité de son temps d'une telle manière que on ne pouvait que même si c'était de façon complètement tordue et diffractée les visions qu'il nous donnait, que reconnaître quelque chose de nous, de notre époque. Ouais. Et ça continue dans ses écrits.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi que sa science-fiction à lui, elle est à base de concepts davantage que la description d'univers très compliqués qui justement peuvent créer un petit peu une barrière pour attirer les nouveaux lecteurs. Le concept finalement est plus universel.
C'est ça, on pourrait dire que c'est une SF peut-être un peu plus philosophique, basée sur les idées et les artefacts science-fictifs qu'il utilise, c'est-à-dire les imageries de robots, de fusées, de planètes Mars, etc., ne sont pour lui que des artifices pour poser ses problèmes et ses questionnements. Quand il décrit un lotissement sur Mars, c'est une banlieue tout à fait typique des années 50 aux États-Unis. Voilà, c'est il n'explique même pas pourquoi, comment on peut respirer sur Mars, etc. C'est juste un moyen pour lui de publier parce qu'il est introduit dans ce milieu et qu'il publie plus facilement là-dedans, et surtout d'introduire des idées qui ne passeraient pas dans les romans réalistes en fait et qui l'intéressent beaucoup.
Donc c'est de la science-fiction matinée de littérature générale ou de romans réalistes.
C'est ça. D'ailleurs, les meilleurs romans de Dick à mes yeux sont ceux où il arrive à faire un peu la synthèse entre ses ambitions du roman réaliste, c'est-à-dire des personnages forts, des intrigues un peu j'allais dire étriqué, mais un peu resserré autour d'un noyau familial, par exemple, ou d'un petit groupe de personnages. Et quand il les mêle avec des grandes idées, ces grands raisonnements de science-fiction, parce que ça reste quand même vraiment des idées de science-fiction, elles sont souvent assez folles. C'est quand il arrive à mélanger les deux, comme dans Le Maître du Haut Château, comme dans Docteur Blood Money, comme dans Le Dieu venu du Centaure, qu'il arrive à cette synthèse qui donne ses plus grands romans. En fait, à partir du moment où il est arrivé à faire le deuil véritablement de ses ambitions de d'auteur de littérature générale, il a essayé vraiment d'aller dans cette direction, et puis très vite ça n'a pas marché, donc il est revenu à de l'ASF un peu plus classique, un peu plus populaire et un peu moins intéressante, il faut l'avouer, avant d'arriver sur la fin de sa carrière à une autre synthèse avec des textes qui, pour le coup, ne relevaient pour certains même plus du tout de la science-fiction, mais qui n'étaient pas vraiment du roman réaliste. La trilogie divine, par exemple, à la fin, qui est une espèce de méditation, d'autofiction méditative sur son propre questionnement sur Dieu, sur sa place dans l'univers, où il se met en scène avec son groupe d'amis. Il atteint quelque chose là qui est à la fois ni de la science-fiction ni du roman réaliste, mais qui est vraiment vraiment du Dick.
Et puis il y a son journal aussi, l'exégèse, c'est évidemment encore un genre différent.
C'était quelque chose qu'il écrivait pour lui, hein. C'est suite à son expérience mystique, sa semaine de février-mars, là, 1974, où il a des visions, où il entend des voix, où voilà, il entend une voix dans une chanson des Beatles qui lui dit que son fils est atteint d'une hernie, et en effet, quand ils vont chez le médecin, le petit doit se faire opérer en urgence. Enfin voilà, il reçoit des messages, il voit des espèces de peintures abstraites au plafond de sa chambre. Et tout le reste de sa vie, donc jusqu'en 82, il va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé et de comprendre en analysant ses textes. Les textes qu'il avait écrits avant, les textes qu'il écrit après. Donc son exégèse est à la fois un travail sur son œuvre passée, son œuvre en cours, parce qu'il commente aussi ce qu'il est en train d'écrire, et sur ce qu'il y a arrivé, cette espèce de chemin de Damas qu'il y est arrivé. Et c'est assez fascinant de le voir. Donc c'est un texte vraiment qu'il écrit pour lui. Hein. Mm-hmm. Certains ont parlé d'épilepsie du lobe temporal pour expliquer cette crise mystique qui lui serait arrivée en 74. Et un des symptômes de l'épilepsie du lobe temporal, c'est une graphomanie excessive. Donc peut-être que tout ça colle, mais en tout cas, voilà, il se retrouve à écrire toutes les nuits dans son exégèse. Et ce qui est fascinant quand on la lit, elle est très difficile à lire d'une traite. Voilà, il faut.
C'est très gros aussi.
Au-dessus de là, voilà, c'est énorme. Et encore, tout n'est pas publié. Hein, la version qu'on a n'est qu'une sélection. Ce qui est fascinant, c'est de voir son cerveau à l'œuvre. En fait, c'est pas du tout construit. C'est pas du tout un essai philosophique avec des thèses et des antithèses. Mais c'est Dick qui part dans tous les sens, qui essaye de comprendre. Et cette plongée dans le cerveau de Dick, je pense, c'est quelque chose d'assez unique, même dans l'histoire de la littérature.
Alors, il faut dire quand même qu'il y a une cinquantaine de romans de Dick, ce qui est quand même beaucoup, parce qu'il est mort assez jeune. Une centaine de nouvelles que donc 120. Vous réunissez, 120 exactement, dans la collection Quarto. Tout ça, c'est très impressionnant. Et puis, il faut dire que la célébrité de Philip K. Dick n'a cessé de grandir. Et on peut dire que juste avant sa mort, il était devenu un écrivain d'une assez grande célébrité.
Ça commençait vraiment à décoller, en effet, pour lui. Donc en 82, au moment où Ridley Scott finit le montage de, il meurt au moment où Ridley Scott finit le montage de Blade Runner. Il en a vu juste quelques images. Il est enchanté du film. Et bon, il peut pas se douter de la suite, quoi. Mais il est en effet à un moment depuis quelques années où il a une vie un peu plus stable. Il vit seul, mais entouré d'amis, de voisins. Il a un petit groupe d'amis, d'autres écrivains d'ailleurs, comme Tim Powers et Kevin Jeter. Il a atteint une sorte d'équilibre, et la célébrité, alors, est pas encore là, mais disons qu'il a pas le statut qu'il a aujourd'hui, mais il a enfin réussi à sortir de sa période de vache maigre, et c'est encore plus triste de savoir qu'il est mort juste au moment où il aurait pu commencer à profiter et à continuer à écrire parce qu'il était loin d'avoir fini, je pense.
Alors, puisque vous parlez de Blade Runner, en voici, pour se le mettre dans l'oreille, un court extrait.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the penthouse gate. All those moments will be lost in time, like tears.
Blade Runner de Ridley Scott, dont l'action est censée se situer en 2019. On prendra un peu de temps tout à l'heure pour parler des adaptations cinématographiques Laurent Kessy, mais ce qu'il faut dire d'abord, c'est que Dick, c'est un enfant de la guerre, et c'est un des thèmes que vous développez dans la préface que vous avez donnée au Quarto, d'abord par son père qui a fait la Première Guerre mondiale et ensuite lui-même qui en 41 est fasciné par l'attaque de Pearl Harbor. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de ce rapport à la guerre, Laurent Kessy?
Oui, c'est un doublement, un enfant de la guerre, parce qu'en effet, son père s'est battu en Ardennes, dans les Ardennes, et a parlé de la guerre. Alors, on ne sait pas à quel niveau de détail, mais a parlé à son fils de son expérience.
Il lui a montré son masque à gaz, en tout cas.
Il lui a montré son masque à gaz, qui est une espèce de, j'imagine, pour un enfant, quelque chose d'assez impressionnant. Et qui d'ailleurs rappelle, qui fait un peu un masque robotique, et d'ailleurs une des premières visions mystiques de Dick quand il habite à Point Relay Station et qui va écrire Le Maître du Haut-Château dans sa cabane un peu plus loin de sa maison. Sur le chemin, il voit dans le ciel une espèce de créature au visage triangulaire, un visage comme ça qu'il prend pour le visage de Dieu, il sait pas, mais qui ressemble étrangement au masque à gaz qu'il avait vu de son père quand
il était enfant. Et qu'il avait totalement effrayé de voir son père sous cette espèce d'horrible masque.
C'est ça, donc on a déjà là le côté inhumain en fait du certains personnages qu'il va développer. Donc les robots, là on a écouté, je digresse un peu mais je vais revenir à la guerre, on a écouté Blade Runner là, et alors cet extrait est très beau, mais c'est un peu un contresens, c'était ce contre quoi Dick râlait à propos du scénario de Blade Runner, parce que pour lui les robots n'ont aucune humanité, ce sont vraiment l'ennemi, quoi. Il compare d'ailleurs les nazis aux robots, ces personnages qui manquent d'empathie, qui l'empathie est pour lui, la caritas est pour lui la façon de définir sans doute ce qu'est l'humanité.
Pouvez-vous nous dire ce qu'on a entendu, parce que pour les auditeurs non anglophones.
Ah oui, pardon. Bah, c'était le monologue final du réplicant, donc qui est un terme inventé pour le film, donc de l'androïde joué par Rutger Hauer, qui en gros fait part de son humanité, enfin explique qu'il est en train de mourir et que ses souvenirs vont être perdus. Ce qui est un peu un contresens par rapport au texte original de Blade Runner, donc les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Donc pour revenir à la guerre, oui, donc il est très marqué par le masque à gaz, hein, et puis peut-être les récits que lui fait son père. Et puis c'est vrai qu'adolescent, il s'intéresse à la guerre, il suit dans les journaux, il suit l'avancée des troupes, il se fait des petites cartes et tout ça. Il est assez fasciné par ça, comme on peut l'être un peu adolescent. Voilà, le conflit est loin, il n'en voit pas les horreurs. Il ne se frottera aux horreurs de la guerre et des nazis que quand il écrira Le Maître du Haut Château, donc qui dépeint une Amérique sous le joug à la fois des Japonais et des Allemands. Et d'ailleurs, donc c'est le procès de Nuremberg qui, quand il s'y intéressera, lui donnera l'idée de travailler sur ce thème. Mais il ne réussira pas à écrire la suite qu'il avait prévue au Maître du Haut Château, tout simplement parce qu'il ne peut plus se plonger dans les archives nazies et travailler sur ces dossiers, tellement il est écœuré. Enfin voilà, il ne peut plus humainement, il ne peut plus supporter de lire là-dessus, et donc il laissera tomber au bout de deux chapitres cette suite qu'il avait annoncée.
On écoute justement un extrait du Maître du Haut Château.
Ce serait intéressant de voir comment l'auteur décrit un monde dirigé par les Juifs et les communistes. Avec le Reich en ruine, le Japon devenu sans doute une province de la Russie, avec la Russie s'étendant en fait de l'Atlantique au Pacifique. Je me demande si l'auteur, quel qu'en soit son nom, décrit une guerre entre la Russie et les États-Unis. Livre intéressant. Curieux que personne n'ait pensé jusqu'ici à l'écrire. Il doit nous aider à apprécier notre bonheur. En dépit des inconvénients évidents, nous pourrions être tellement plus mal partagés. Ce livre dégage une grande leçon de morale. Oui, ici, nous avons les Japonais au pouvoir, nous sommes un pays vaincu, mais nous devons regarder devant nous. Nous devons construire. De grandes choses doivent sortir de tout cela. La colonisation des planètes, par exemple. Il devrait y avoir un bulletin d'information à la radio. Il s'assit et alluma son poste. Le nouveau chancelier du Reich a peut-être été choisi. Il était déjà excité. Je voudrais me trouver là-bas. Un jour, peut-être, j'aurai assez d'argent pour faire le voyage et voir ce qui a été réalisé en Europe.
Quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants.
Alors la guerre, c'est d'autant plus important dans l'œuvre de Dick que lui, au fond, a connu une Amérique qui était toujours un peu en guerre, que ce soit en Corée, au Vietnam, en Afghanistan. Et puis, il y avait aussi la guerre froide, Laurent Kessy. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est présent dans la plupart de ces romans ?
Dans la plupart, non. Il y a certains romans où c'est une thématique présente. Par exemple, il y a un roman post-apocalyptique comme Dr. Blood Money, par exemple, donc, qui se passe après l'explosion d'une bombe nucléaire, d'ailleurs. Pas du tout réaliste, mais bon, bref. Donc c'est un post-apo, donc on a là une espèce de guerre froide, enfin la menace qui plane. C'est surtout une thématique qu'on retrouve au début des années 50, où vraiment dans les nouvelles, où vraiment on a beaucoup de guerres entre machines et humains, ou entre machines elles-mêmes, avec des humains d'ailleurs souvent relégués dans des souterrains, dans des bunkers. On sent que l'agoraphobie peut-être de Dick se ressent là aussi. Et puis c'est l'époque aussi où on doit apprendre, je pense, aux petits Américains à se cacher, à créer des abris anti-atomiques, à les remplir de boîtes de conserve. Donc Dick écrit sur son temps, et voilà, quand il commence à écrire des nouvelles, on est vraiment dans cette époque de menaces atomiques.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites. Dick écrit sur son temps et il écrit beaucoup sur les évolutions sociétales des États-Unis. Au fond, lire les nouvelles et les romans aussi, c'est un petit peu faire une histoire de la seconde moitié du XXe siècle des États-Unis vue par Philip K. Dick, Laurent Caissy.
Tout à fait. Alors ce qui est étonnant, c'est que lui ne prend part à rien. Lui, il reste chez lui. Voilà, c'est comme le maître du haut château en quelque sorte. Il reste dans son petit appartement, dans sa petite maison de banlieue, n'en bouge pas et regarde le monde. Il ouvre ses antennes, il regarde le monde, il retranscrit avec sa sensibilité ce qu'il sent. Donc on a ce que je disais au début de sa carrière, c'est ces thématiques sur la guerre froide. Et puis après, il va suivre un peu l'évolution, on l'a qualifié de romancier psychédélique, mais ça c'est vraiment à nuancer, mais il suit l'évolution de la société, il s'intéresse aux jeunes, il parle dans Substance Mort, par exemple, de la jeunesse et des ravages de la drogue dans la jeunesse, et il finit sa vie à vivre à Orange County, qui est sans doute le comté le plus à droite de Los Angeles, c'est-à-dire
le plus riche en tous les cas.
Oui, voilà, mais il finit juste après, il meurt juste après l'élection de Reagan dans une enclave, on va dire youpi avant l'heure. Et voilà, et en étant devenu versé vraiment dans la mystique et en travaille la gnose, etc. Donc, il a vraiment suivi, il est New Age avant l'heure, on va dire, même si c'est très réducteur. Mais en tout cas, voilà, il a suivi plein d'évolutions de l'Amérique, sans les suivre lui-même vraiment, mais en les écrivant. En fait, c'est comme un vecteur qui aurait transmis dans son œuvre ce qui lui ressent. Et c'est ça, sans doute, la force de son œuvre, c'est son acuité à voir ce que les autres ne perçoivent pas ou à le prendre d'un point de vue auquel on n'aurait pas pensé.
Alors, puisque vous vous êtes occupé donc des nouvelles complètes, j'aimerais qu'on parle un petit peu justement de la spécificité des nouvelles dans l'œuvre de K. Dick. Il en a écrit pendant à peu près toute sa vie, mais avec des moments où il en faisait davantage, des moments où il en faisait moins. Finalement, quelle est la place de la nouvelle dans sa carrière et puis aussi dans sa façon de travailler, disons? Est-ce que c'est un laboratoire pour les romans ou est-ce qu'au contraire la forme nouvelle est importante en soi pour lui?
Alors, quand il commence, la nouvelle est sans doute le seul débouché. Comme l'a expliqué hier Étienne, il commence, il devient tout de suite écrivain professionnel et donc il faut faire bouillir la marmite, il écrit dans des pulps, puis il publie le plus possible. Et
donc idéalement, donc il écrirait des romans, mais il a besoin de vendre beaucoup de nouvelles.
Alors, c'est-à-dire qu'il tombe, par chance pour lui, sans doute, parce qu'il n'a pas encore appris à écrire des romans, il tombe à une époque où les nouvelles se vendent encore très bien, où le marché de la science-fiction est presque exclusivement composé de nouvelles. Il y a des romans, mais ce sont souvent des nouvelles mises bout à bout. Fondation, par exemple, d'Asimov, a d'abord été publié sous forme de plusieurs nouvelles dans une revue. Donc, Dick s'inscrit d'abord dans cette SF-là. Qui peu à peu les revues, voilà, périclite, il y a la concurrence de la télévision, et puis les romans de poche apparaissent, et donc Dick passe au roman parce qu'il a fait ses armes dans l'écriture et qu'il est capable d'en écrire, et puis que le marché part vers là. Donc il arrête, il écrit à peu près de 51 à 55, il écrit 80% des nouvelles de sa production de nouvelles totale. Il se met au roman ensuite, il écrit beaucoup de romans, il publie quelques nouvelles en 58, mais c'était des nouvelles qu'il avait écrit avant 55, et puis il se remet à la nouvelle en 63 au moment où son agent lui renvoie tous ses manuscrits de littérature générale qu'il n'a pas réussi à vendre et où cette ambition un peu se clôture, en fait c'est un échec total pour lui, et donc il est un peu bloqué sur le plan du roman de SF, et il se remet à écrire des nouvelles. Je sais pas si c'était plus facile pour lui ou si c'est un moyen de se remettre de ce choc, Et il en écrit comme ça quelques-unes entre 63 et 66. Et puis, il en écrira au cours des 20 dernières années de sa vie, une quinzaine à peu près, à intervalles réguliers. Mais voilà, il est vraiment devenu un auteur de romans. Et d'ailleurs, même sa production de romans, en vieillissant, se devient de plus en plus rare. Évidemment, il vieillit. Et puis, la consommation d'amphétamines pour travailler commence à peser sur son corps. Enfin, son corps a vieilli prématurément, vraiment. Les drogues ne l'ont pas arrangé, donc il a du mal à la fin à suivre le rythme qui, de toute façon, était inhumain dès le départ.
Mais qu'est-ce qui fait qu'il choisit tout de même la nouvelle par rapport au roman quand il a un sujet en tête? Parce que on a l'impression, en lisant les nouvelles du Quarto, que elles ont vraiment été pensées pour être des nouvelles dans leur concision, dans leur puissance aussi, dans leur style très, enfin, qui permet d'entrer tout de suite dans le cœur du sujet. Il y a quand même un vrai art de la nouvelle chez Kadic.
Ah, c'est sûr qu'il a lu Maupassant très jeune. Je pense que c'est quelque chose qui a dû le marquer. Et puis c'est une bonne école pour la nouvelle. Il a lu des centaines, peut-être des milliers de nouvelles puisqu'il lisait les pulps religieusement. Donc, et malgré tout, il y avait quand même à la fois de bons faiseurs qui maîtrisaient les techniques et puis aussi de grands auteurs qui étaient publiés dans ces pulps malgré tout. Donc il a été à cette école-là, il s'est formé tout seul, mais voilà. Il a travaillé avec Anthony Boucher aussi, son premier éditeur, qu'il a appris à améliorer. Et puis ce qui est fascinant, c'est qu'on le voit. Donc les nouvelles dans l'édition Quarto sont publiées par ordre chronologique de rédaction, pas de publication. Et donc on voit l'écrivain en fait naître au fur et à mesure que nous lisons ces textes, c'est-à-dire que on voit son style devenir plus efficace, on voit ses idées devenir plus fines, on voit ses idées sont là dès le départ, il a toujours les mêmes obsessions, on voit à peu près même comment il travaille chaque idée, donc souvent dans ses nouvelles il a une idée forte qu'il pousse à une extrémité, là où dans les romans il a plusieurs idées qu'il mélange et qui font une espèce de mixage qui donne une plus grosse explosion, j'allais dire, que dans les nouvelles.
Ouais, mais peut-être moins précise, justement.
Ouais, c'est plus des expériences de pensée, peut-être, les nouvelles, où il y a vraiment, on peut aller au bout de l'idée. Dans les romans, il y a peut-être cette espèce de mélange qui fait que tout s'intercale, mais que moi je trouve formidable, où voilà, il n'hésite jamais à aller, il a une idée, il la rajoute. C'est l'écrivain E. Van Vogt, qu'il admirait beaucoup, dit, qui était un de ses modèles, et dont les textes sont maintenant devenus très 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 difficiles à lire, qu'il a dit, écoute, le secret pour écrire un roman, c'est d'aller au bout d'une idée, comme tu le fais dans tes nouvelles, et puis de rebondir sur une autre, et comme ça, tu as atteint la bonne longueur pour un roman. Sauf que Dick, lui, il va au bout des idées jusqu'à la fin du roman et qu'il en rajoute à chaque fois dans les chapitres. Donc ça devient d'une complexité assez folle, mais qui est passionnante. Donc les nouvelles sont peut-être plus faciles d'accès et puis elles lui permettent aussi d'articuler peut-être mieux ses idées et sa pensée.
Ce qui est déprimant dans la mauvaise science-fiction, c'est qu'elle montre un futur, qu'il soit dystopique ou apocalyptique, où on ne s'intéresse qu'à quelques personnages. Le méchant Big Brother et le protagoniste qui se bat contre l'ennemi. On ne s'intéresse jamais aux gens ordinaires et à la manière dont leur vie est bouleversée. Mais Philip K. Dick était différent. Il aimait observer la manière dont la vie de gens ordinaires basculait. Philip K. Dick ne décrivait pas tant l'horreur que cette sinistre sensation que toutes nos certitudes sont bâties sur du sable. Le terme science-fiction n'est pas approprié, Nous devrions dire histoire spéculative, parce que nous sommes obsédés par l'idée que l'histoire aurait pu être différente, et nous la projetons dans le futur. Ce devrait être des spéculations sur nous-mêmes, notre grande histoire, et comment cela nous transforme en tant que peuple, en tant qu'espèce, ou en tant qu'individu. Philip K. Dick excellait dans ce domaine. Il explorait toujours les alternatives. Et si cela s'était passé autrement? Et si les nazis et les japonais avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, par exemple, comme dans son célèbre livre « Le maître du haut château ».
La compagnie des œuvres avec cet extrait du documentaire Les Mondes de Philippe K. Dick, de Yann Coquart et Ariel Kirou. Est-ce que vous êtes d'accord, Laurent Kessy, avec l'auteur de SF David Brin qu'on entendait dans cet archive sur les raisons au fond qui font que Dick fait de la bonne science-fiction parce qu'il est à hauteur de ses personnages et qu'il raconte le quotidien de ces gens-là dans une vie qui est parallèle ou qui est dans le futur par rapport à la nôtre. Est-ce que c'est ça qui fait sa force?
Alors je sais pas si c'est ça qui fait sa force, en tout cas c'est ce qui fait une de ses spécificités. Hier vous parliez en évoquant sa biographie de la fascination qu'il éprouvait pour les réparateurs, hein, pour
les bidouilleurs, ouais. C'est très côte ouest d'ailleurs, c'est très Californie en fait, ces bidouilleurs qui sont proches de San Francisco, de la Silicon Valley et tout ça.
C'est les pré-hackers même, les hackers ont commencé en bidouillant des radios. Et donc il est fasciné par ça et il met toujours en scène, mais alors vraiment de façon quasi systématique, des personnages d'artisans ou de réparateurs ou de ce qu'il n'est pas du tout lui-même a priori. Voilà, c'est pas un monsieur bricolo. Visiblement, il est plus dans les choses de l'esprit, mais il est fasciné par ces gens et il les met en scène. Donc il met en scène l'Amérique de tous les jours, l'Amérique des petites gens. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a plu à une certaine gauche, notamment en France. Il met en scène des gens qui, dans la SF, en effet, classique, n'existent pas. On traite d'empires spatiaux, on traite de héros, voilà. Mais on ne traite pas du petit réparateur du coin.
Donc c'est toujours une critique sociale, au fond, un livre de Dick ou une nouvelle de Dick.
Ça l'est, mais pas forcément de façon frontale, voilà. Dick travaille sur son milieu, en fait. Il écrit là aussi ce qu'il connaît. Il est impensable pour moi, quasiment. Enfin, ça lui est arrivé, mais quand il parle de président des États-Unis ou de président de la Terre, il y a tout de même toujours un personnage de moins important, enfin moins important, de moins haute condition dans l'histoire qui aura une importance. Voilà. Donc c'est une façon de commenter, mais peut-être que c'est une façon que c'est pas un commentaire pour lui, que c'est juste une façon d'exprimer en fait la pluralité de ce qu'il voit autour de lui, quoi. Mmh.
Alors évidemment parmi les grands thèmes de l'œuvre de K. Dick, il y a toujours l'idée qu'est-ce que c'est que le réel au fond? Est-ce que le réel existe comme on croit qu'il existe? Et il y a une nouvelle en particulier, mais bon, c'est un thème qu'on retrouve partout, qui s'appelle La Petite Ville et qui est la description d'une frontière assez floue entre la réalité et la fiction. Je ne sais pas si vous l'avez immédiatement en tête, Laurent Kessy, mais est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu cette nouvelle?
C'est l'histoire d'un personnage banal, hein. C'est un employé de bureau, il me semble, qui construit un petit train dans un souterrain, dans sa cave. Et alors il y a sa femme qui le trompe, il me semble, c'est ça?
Oui, avec son chef.
Voilà, on pourrait parler aussi de la vision des femmes de Dick qui est un autre problème.
On a l'impression que les hommes et les femmes se comprennent pas vraiment, en tout cas dans.
Voilà, c'est ça, les relations sont vraiment très très compliquées entre hommes et femmes. Et donc il construit un train électrique dans sa cave et puis petit à petit il crée toute la ville qui reproduit sa propre petite ville. et il devient le démiurge de, à la fois de cette de la petite ville qu'il a construite autour de son train, et puis dans un retournement très, j'allais dire, quatrième dimension, il devient le démiurge de la petite ville réelle. Donc c'est une nouvelle fantastique. Il n'écrit que du fantastique, quasiment que dans ses nouvelles. Il n'y a pas vraiment de roman, quelques exceptions près, mais pas vraiment de roman de pur fantastique.
Qu'est-ce que vous appelez le pur fantastique ?
C'est-à-dire que il n'y a pas d'éléments. Le contexte est totalement réaliste. Il n'y a pas d'éléments de science-fiction dans ce contexte-là. C'est une banlieue normale.
Ouais. Sauf que quand même, quand il bouge des choses sur la maquette, ça bouge des choses aussi dans la ville.
C'est ça. Mais ça, c'est l'éruption du fantastique. C'est pas un prérequis, si vous voulez. Voilà, dans la science-fiction, l'univers est différent à la base. Voilà. Et là, il l'est pas. Donc là, ça peut rappeler en effet les épisodes de la quatrième dimension. Hein. Ce sont des histoires à chute qui s'inspiraient des grands récits, des grandes nouvelles de science-fiction de l'époque. Et donc voilà, c'est aussi, donc on a la thématique du souterrain qui revient là aussi, c'est assez marrant. Et donc le questionnement sur la réalité, mais aussi sur le point de vue, le personnage grâce à son point de vue, est-ce qu'il a des pouvoirs, on ne sait pas, c'est pas dit, mais il parvient à modifier la réalité. Parfois la réalité se modifie à l'insu du personnage principal. Il y a plusieurs voiles de réalité. Tout peut arriver n'importe où. C'est ce que dit David Brin dans l'extrait que vous avez passé. On est vraiment sur des sables mouvants, quoi.
Et alors lui, ce personnage de Vernon qui fait donc sa maquette, c'est un homme qui est trompé par sa femme, licencié par son patron. C'est vraiment un vaincu de la société. On a l'impression que Dick se met vraiment de son côté, du côté de ce personnage qui se venge finalement sur sa maquette qui va devenir en partie la réalité, se venge de sa vie. Est-ce que vous sentez justement l'empathie envers ce personnage ou ce type de personnage de vaincu de Dick ?
Alors il y a ça, là. Alors, en effet là c'est vraiment la revanche des geeks, là. On sent bien que... Mais vers la fin on sent quand même que Dick est passé, il y a une évolution dans la nouvelle, on sent que Dick est passé du côté... où il est en train de dire que ce personnage est plutôt un démiurge, et là on rejoint aussi la gnose... C'est des préoccupations qui viendront plus tardivement. Mais oui, Dick est clairement du côté des... Alors, je ne sais pas s'il y a un côté revanche chez lui, mais bon, il a tellement subi d'échecs dans sa vie que est-ce que vraiment il y a eu un moment où il a pu réclamer vengeance? Alors, peut-être qu'il s'identifie au personnage qui voilà. C'est difficile à dire, je ne veux pas plaquer des interprétations sur lui, mais il y a peut-être en effet un peu de ça, un petit peu de d'ailleurs il y a des nouvelles plus tard où il se mettra en scène en tant qu'écrivain, où il y a un peu ça, il y a aussi une espèce de nostalgie qui viendra après sur là il est en train, quand il écrit ça doit être en 54, c'est la période de Vache Maigre, mais plus tard il sera nostalgique de cette période. Donc est-ce qu'il est vraiment revanchard, je ne sais pas.
I went from high school to a full-time job in a record store and radio show.
J'ai quitté le lycée pour un travail à temps plein dans un magasin de disques qui vendait aussi des radios. Travaillant 6 jours par semaine, je n'avais pas l'occasion de beaucoup écrire. Je me suis marié quand j'avais 19 ans. Il y avait l'aspect mystérieux de l'univers qu'on pouvait traiter dans la science-fiction, et j'ai compris alors que ce que je percevais, c'était une sorte de monde métaphysique, vous savez, un royaume invisible de choses à moitié cachées au pouvoir surnaturel.
La route a été longue, mais la science-fiction m'a offert une voie
me permettant de publier le genre de choses que je voulais écrire. J'ai relu Glissement de temps sur Mars l'année dernière, et ça, c'est vraiment ce que j'ai voulu écrire. L'invasion du monde d'un individu par celui de quelqu'un d'autre.
Rogue,
ma première histoire, est l'exemple parfait de ce que j'essayais de faire alors, et c'était une idée de Jung, pas la mienne. Je mettais en scène chaque personne avec un monde différent. Un monde essentiellement composé de fantasmes que le personnage ne reconnaît pas comme tel. C'est une idée qui ne m'a jamais quitté.
Efforcez-vous d'y croire.
Vous serez le premier homme à être projeté dans le futur, biologiquement parlant.
Qu'est-ce que vous retenez, Laurent Kessy, de ce qui vient d'être dit par Philippe Kadic dans cette archive? On entend les mots de fantasme, l'idée de l'invasion du monde d'un individu par celui de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous, vous entendez en particulier là-dedans?
Mais je remarque surtout, voilà, qu'il parle de Glissement de temps sur Mars, qui est un de ses meilleurs livres. Et en disant que c'est ce qu'il avait toujours voulu faire, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, cette espèce de fusion entre la SF et le roman réaliste. C'est un roman qui se passe sur Mars, donc dans une banlieue typique qui pourrait se situer en Amérique, ça serait la même chose, et où le propos est en effet la contamination de la schizophrénie d'un jeune enfant à d'autres personnages, ce qui est fascinant dans ce roman, comme d'ailleurs dans Le Maître du Haut Château par d'autres moyens, c'est que les personnages contaminent le texte, c'est que la schizophrénie, la perturbation temporelle induite par Manfred Steiner, ce jeune schizophrène, vient perturber le texte de l'auteur, vient perturber la narration. C'est quelque chose qui est dans la science-fiction de l'époque est quand même assez rare dans la littérature au sens large. Voilà, c'est quelque chose que j'ai rarement lu, peut-être dans des expérimentations, mais c'est le Dick que j'aime, le Dick qui travaille sur les personnages, sur leur point de vue, mais qui parvient à entraîner le lecteur dans cette espèce de monde fou partagé.
Alors, quelle vous semble être l'influence de Dick sur des écrivains qui sont des écrivains soit d'aujourd'hui, soit qui étaient ses contemporains? On a pas mal parlé de l'influence de Dick chez Roberto Bolaño, aussi de son influence chez un penseur comme Jean Baudrillard. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet?
Oui, alors il y a beaucoup d'auteurs qui se réclament de lui. Il y a Jonathan Lethem aussi. Alors évidemment, oui, chez Baudrillard, on retrouve des sujets travaillés. Baudrillard a visiblement lu rapidement, parce qu'il commet quelques erreurs quand il cite les textes de Dick, mais les idées, voilà, les idées sont là. Il reprend certains concepts de Dick, il les pousse un peu plus loin. Chez Bolaño, j'avoue que c'est moins flagrant, l'influence. Alors, le truc, c'est que Bolaño s'est beaucoup réclamé de Dick, mais voilà. Moi, je trouve qu'il y a c'est pas de l'influence, mais qu'il y a une espèce de contemporanéité et donc de travail sur les mêmes sujets, mais de façon différente, entre Pynchon et Dick, par exemple, où Pynchon, là aussi, c'est des gros textes florissants et travaille aussi cette même folie de l'Amérique d'une façon totalement différente, puis ce postmodernisme aussi. Chez des auteurs plus récents, alors en science-fiction, il y a aussi le même mouvement. On peut lire son influence chez des auteurs de la nouvelle vague, hein, ce qu'on appelait la new wave anglaise. Ballard, je pense, avait lu Dick, et certains auteurs cyberpunk se réclamaient de Dick, mais pas William Gibson, par exemple, le pape du cyberpunk.
Mais aujourd'hui, par exemple, dans les adaptations cinéma, on va voir qu'il y en a beaucoup. Est-ce que vous avez le sentiment que son univers est toujours aussi présent qu'il y a, je sais pas, 10 ans ou 15 ans?
Oh, c'est assez cyclique, on dirait. Il y a d'abord eu Blade Runner et qui n'a pas marché, donc après ça a remis du temps avant de remarcher avec Total Recall et puis jusqu'à Minority Report, et puis ça n'a plus marché de nouveau. Et là dernièrement il y a eu deux séries télé, donc c'est assez cyclique. Mais la question des adaptations est un peu compliquée parce qu'elle donne alors pas forcément une image fausse, mais une image réductrice de son œuvre. Hein. Alors l'imagerie est très très science-fictive, évidemment, c'est ce qui sans doute attire l'œil et le public.
Ça veut dire avec des villes où il y a évidemment des voitures volantes, voilà. Où c'est toujours un climat un petit peu crépusculaire, ce genre de choses.
Voilà, l'imagerie induite créée par Ridley Scott dans Blade Runner était plus tiré du magazine Metal Hurlant français que du roman original de Dick. Donc il y avait cette espèce de convergence d'influences qui ont créé une espèce d'univers visuel auquel on associe Dick, qui n'est pas forcément le sien.
Et qui est devenu un univers un petit peu obligé maintenant d'un certain nombre de films de science-fiction. Le cinquième élément ressemble un peu à Blade Runner dans ses décors. Il y a comme ça toute une déclinaison sur cet univers-là pseudo-dickien, mais qui n'est peut-être pas le cœur finalement de ce que lui voulait raconter.
Non, en effet, d'ailleurs, si on prend le cinquième élément, c'est inspiré des bandes dessinées françaises de Valérian, qui avait inspiré Blade Runner, dont Dick n'a rien à voir dans l'histoire presque. Et donc son imagerie, oui, ouais. J'allais dire, il a pas vraiment d'imagerie parce que c'est différent selon les romans, et c'est vraiment une littérature d'idées que d'images. Et évidemment, en adaptation audiovisuelle, les idées doivent être parfois raccourcies, expliquées différemment. Enfin, on n'a pas tout le sel. Comment rendre le vertige ressenti à la lecture du Maître du Haut Château, par exemple, en série télé, c'est impossible. Voilà.
Bon Jack, qu'est-ce qu'on a ?
Boule rouge, double homicide, un homme et une femme, tueur sexe masculin blanc, la quarantaine. Agatha fixait l'heure du meurtre à 8h04, mais les jumeaux sont plus flous, alors on va attendre confirmation. Le lien est encore incertain, nous avons les témoins en liaison dès maintenant. Ce sera l'affaire numéro 1108.
Bonjour inspecteur. Affaire numéro 1108, prévisualisée par les précogs, enregistrée sur Holosphère par les archives de pré-crime. Mes collègues témoins pour l'affaire 1108 sont le docteur Catherine James et le président de la cour, Franck Hollard. Bonjour.
Bonjour.
Les témoins veulent-ils prévisionner et valider le numéro 1108 maintenant ?
Réponse affirmative, je valide.
Allez-y.
On est prêt.
L'heure du meurtre, 8h04. C'est dans 24 minutes 13 secondes à partir de maintenant. C'est une boule rouge.
Alors ça, c'est un extrait de Minority Report de Steven Spielberg, adapté de la nouvelle de Dick, Le Rapport Minoritaire. On n'a pas forcément, quand on regarde le film, l'esprit de la nouvelle, ce qu'on ressent à la lecture de la nouvelle, Laurent Kessy.
C'est un peu compliqué. On a tout de même une espèce de questionnement sur... Alors là, c'est sur le destin, sur... Il y a aussi ce travail sur la police, l'État autoritaire, enfin le pouvoir qui travaille, qui est une des thématiques aussi qui travaille beaucoup Dick. On a toujours des vestiges de ces idées, de ces thématiques dans les adaptations, plus ou moins bien faites, mais là c'est tellement une gageure de vouloir adapter Dick. D'ailleurs, vous remarquerez, on adapte plus volontiers ces nouvelles que ces romans, tellement les romans sont florissants et qu'on n'arrive pas... les condensés seraient très très compliqués. Michel Gondry a par exemple jeté l'éponge parce qu'il n'arrivait pas à écrire un scénario satisfaisant du Bic. Et donc les grands films hollywoodiens adaptés de Dick sont souvent adaptés de nouvelles.
Mais alors ce qui est étonnant, c'est que parfois on parle d'un film dickien qui n'est même pas adapté d'une nouvelle ou d'un roman de Dick. Alors qu'est-ce qui fait que on a quand même le sentiment que c'est inspiré par lui?
Prenons l'exemple, par exemple, du Truman Show, ce film avec Jim Carrey qui met en scène un personnage qui est surveillé depuis sa naissance. Alors le concept
pour une émission de télé-réalité.
Oui, oui, oui. Le concept n'a pas été traité tel quel par Dick. Hein. C'est pas le même personnage, mais on retrouve ça dans Loterie solaire où un personnage qui vit dans un monde factice découvre peu à peu. Alors je sais plus comment, mais je crois qu'il y a la buvette à laquelle il est censé boire disparaît, et à la place on voit le mot buvette, quoi, comme si c'était juste un panneau avec écrit buvette, comme si voilà la chose n'était plus devenue que son mot, ce qui la représente. C'est un peu la même chose dans Truman Show où je me souviens qu'une lampe de d'éclairage de cinéma tombe et manque de l'écraser, et c'est à ce moment-là qu'il commence à avoir des doutes. C'est plus dans le traitement, là, dans la façon dont, alors la réalité est truquée, mais la façon dont le personnage découvre peu à peu que quelque chose ne va pas, le cinéaste a réussi le même vertige qu'on peut ressentir parfois à la lecture de Dick.
Est-ce que Fight Club, c'est un film dickien selon vous, Laurent Kessy?
Je trouve qu'il est. Alors, il y a l'espèce de twist évidemment final qui pourrait rapprocher de l'œuvre de Dick, mais je trouve qu'il est un peu trop frontal. Dick est moins dans sa dénonciation du consumérisme, etc. de l'Amérique. Dick est moins rentre dedans, on va dire. Il est un peu plus fin. Voilà. Mm-hmm.
Alors, vous l'avez dit, Dick écrit ses nouvelles pour vivre. C'est pour ça qu'il le fait. Il lui faut produire. Bon, évidemment, c'est son métier et ça lui plaît. Mais le rapport à l'argent est évidemment important. Et dans ses livres et dans ses textes, il écrit beaucoup sur la société de consommation. On pourrait presque dire qu'un de ses thèmes, c'est consommer ou périr. Et je pense en particulier à la nouvelle « Qui perd gagne ». Est-ce que vous pouvez nous en dire aussi un mot, Laurent Kessy?
Alors, qui perd gagne, rappelez-moi, parce que le thème, je me souviens pas exactement de tous les titres des 120 nouvelles.
Bon, ce sera un peu long, du coup, on va pas raconter toute l'histoire. Je crois que vous citez aussi copie non conforme, où la oui, copie, la fabrication à la chaîne est dépeinte, mais en tous les cas, il y a cette idée que le capitalisme, c'est un thème pour Dick, et que donc, il injecte ce thème dans beaucoup de ses récits.
Alors c'est une thématique, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le capitalisme, mais c'est plutôt le consumérisme, le système des franchises. Voilà, on parlait tout à l'heure des petits artisans, des bidouilleurs. Il est toujours du côté voilà des petits commerces là, c'est ce qu'on dirait en ce moment. Il est vraiment anti-consumérisme. La fabrication à la chaîne, pour lui, c'est quelque chose d'assez absurde. Le problème de la réplication des objets, du faux aussi, pour lui, il est persuadé qu'on peut faire des faux de tout et n'importe quoi. Et donc, c'est quelque chose qui travaille aussi. Une des nouvelles que vous avez citées, il me semble, c'est une où des astronautes dans un vaisseau spatial, des explorateurs, tombe sur des créatures extraterrestres qui peuvent répliquer n'importe quel objet. Et donc la paranoïa ultime, Dick travaille ça, la paranoïa ultime, c'est pas de se méfier des autres gens qui nous entourent, mais c'est d'en arriver à se méfier des objets qui nous entourent. Quand nos objets usuels peuvent être des copies qui, voilà, c'est le point auquel on arrive avec les Alexa, les Siri là, qui écoutent ce qu'on dit chez nous quand on a des objets domotiques. Voilà, Dick avait déjà entrevu ça, que le degré ultime de la paranoïa serait d'être espionné par des objets.
Il est étonnant, en effet, de voir à quel point mon héros ressemble à Edward Teller. J'ai été étonné, une fois le livre fini, de constater cette coïncidence avec cet homme père de la bombe H, qui avait assez perdu son bon sens pour envisager la destruction du monde.
Alors pour vous, les savants ont une grande responsabilité dans le monde d'aujourd'hui.
Oui. À l'époque où j'écrivais ce livre, assez bizarrement, le docteur Teller aboyait ses théories aux quatre coins des États-Unis. Il pontifiait, et il m'a évidemment un peu influencé dans mon avis sur les savants et leur peu de sens des responsabilités.
Cela va-t-il jusqu'à dire que vous condamneriez Einstein ou tout autre grand chercheur de la physique nucléaire?
Je place Einstein dans la même catégorie que Teller, et Oppenheimer aussi d'ailleurs. Tous. Je ne sais pas pourquoi le fait que les calculs d'Einstein aient servi contre les Allemands et ceux de Teller contre les Russes instaureraient une différence. C'est le même genre de savant à Heuer, avec la même machine à penser, qui scintille et qui fait blip, 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 bombe, 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 construit, construit, construit. Bien sûr, Einstein était un type charmant, il mangeait des gâteaux, il aidait les enfants à faire leurs devoirs, mais il a inventé la bombe.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Oui, le titre de son roman Blood Money, dont il était question dans cet archive, dit assez bien le lien qu'il fait entre l'argent et le sang. Mais il est aussi question du progrès, de la bombe, de la science, Laurent Kessy. Le rapport à la modernité de Philip K. Dick, est-ce qu'il est comme ça un petit peu contraint, un petit peu agacé au fond, ou est-ce qu'il y a quand même une fascination pour cette modernité technique?
Je crois qu'il est assez... évidemment, il la reçoit, hein, il reçoit toutes ces informations, mais il est assez pas fasciné par ça. Il se méfie plutôt, je pense, de c'est ce qu'on voit quand il traite du consumérisme et des objets. Il est
inquiet, peut-être.
Oui, inquiet, sans doute. Alors là, le rapport à la science, par exemple, qu'il vient de décrire, est de la part d'un écrivain de science-fiction, est assez rare. Hein, surtout les auteurs de l'époque qui étaient plutôt techno-optimistes et qui plaçaient beaucoup d'espoir en la science. Dick n'est pas dupe. Il sait très bien que les gens qui sont occupés du programme spatial américain étaient des anciens nazis. Enfin, il a un regard, et comme d'habitude, il a toujours le regard de biais là-dessus. Et puis, il a, c'est pas un scientifique, contrairement à d'autres auteurs de SF, David Brin, qui parlait tout à l'heure. Lui est un grand physicien. Enfin, il est plutôt du côté, lui, des humanités, et ce qui est assez rare dans les auteurs de SF de l'époque. Et ce qui le met aussi un peu à part. Donc, son rapport à la technique, à la modernité, j'allais dire fuyant, mais c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'il ne le traite pas de la même façon que le traiterait un auteur de SF lambda.
Et il est contrebalancé par son côté mystique, son côté premier chrétien.
Alors ça c'est autre chose. En effet, c'est d'ailleurs un des rares auteurs de SF qui fait autant rentrer ce côté mystique dans ses écrits. Dick, donc, vers la fin de sa vie, après son expérience mystique, se passionne pour la gnose et voilà, toutes ces visions lui ont donné le pouce à fonder des théories sur ce qui y est arrivé.
Vous pouvez nous redire ce que c'est que la gnose ?
Alors la gnose, c'était une secte parmi les premiers chrétiens, hein, des premiers siècles après Jésus-Christ, qui s'est peu à peu éteinte et dont les écrits ont été dispersés ou brûlés. Et on a retrouvé en 1945 dans un désert plein de rouleaux de leurs manuscrits. Et ça a relancé un peu toute l'étude de ce mouvement. Et donc l'idée principale, c'est que le dieu de l'Ancien Testament est un démiurge, est un faux dieu, est un dieu qui nous veut du mal, en fait, vu l'état du monde dans lequel on vit. Le dieu que nous vénérons ne peut pas, voilà, n'est pas un bon dieu. Et donc il existe un dieu plus puissant, omnipotent, mais qu'on ne peut atteindre que en travaillant sur soi, en fait, et pas en se rassemblant en église et en voilà. Ouais. Et donc il travaille là-dessus. C'est vraiment toute l'affaire de la fin de sa vie via l'exégèse, il va chercher des signes de la gnose dans ses anciens livres, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est jamais vu dans les auteurs de SF de l'époque et dans les auteurs qui, même tout court, qui se sont penchés à ce point sur la gnose chrétienne.
On va terminer par cette dernière question. Est-ce que il se sentait théologien ?
Alors, dans le sens où il étudiait Dieu, oui, sans doute. Il étudiait pas les religions, il étudiait la divinité, voilà, c'est plutôt ça. Est-ce que vous voulez dire par théologien qu'il voulait apprendre aux autres
Non, mais est-ce qu'il aspirait à une sorte de connaissance? C'est la question que j'aurais souhaité que vous développiez, mais malheureusement on arrive à la fin de cette émission. Je vais devoir vous dire merci d'ores et déjà, Laurent Kessy, pour nous avoir parlé de l'œuvre de Dick et des grands thèmes qu'on y trouve. Et puis je renvoie évidemment à nos auditeurs à votre édition complète des nouvelles de Dick, parue en édition Quarto en 2 volumes chez Gallimard. C'était La Compagnie des œuvres, une émission proposée comme chaque jour par Anne Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et Laurie Vachon. Demain, suite de notre série autour de la vie et l'œuvre de Dick, ce sera avec Ariel Kirou qui nous parlera notamment de la préscience de l'auteur de Ubik, qui a pu avoir beaucoup de sentiments de ce qui allait arriver sur le monde d'aujourd'hui. Nous le verrons dans un instant, les sciences, les vraies.